Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Barthas sur le 107FM ou sur radiobarthas.net. Nous sommes le mardi 16 décembre 2025 et je suis ravie de vous retrouver pour ce midi et des poussières. On va passer une toute petite heure ensemble et aujourd'hui on va parler de mémoire individuelle et collective, de mémoire participative et collaborative, de souvenirs de jeunesse et de réminiscences enfouies et même de mémoire flottant dans l'espace interstellaire. Mais on commence ce voyage mémoriel tout de suite avec Jean-Luc Galibert qui est passé hier dans les studios de Radio Barthas. Il est venu de Brenoux, petit village de 300 habitants entre Mende et Saint-Étienne du Val-d'Aunay, pour nous raconter le projet Mémoire Partagée. C'est un projet qu'il mène sur sa commune avec de nombreux autres habitants. Ils sont 70 personnes impliquées. Ils sont soutenus par le foyer rural et par la commune. Et c'est un projet qui œuvre à reconstituer en partie l'histoire sociale d'un village de Lozère, de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 60. Jean-Luc Galibert nous raconte comment tout cela a commencé.
Alors l'idée, elle est venue, c'est un petit peu original, c'est sur une histoire de famille où je me suis aperçu qu'il y avait des photos qui avaient disparu. Et on s'est dit qu'il y avait toute une mémoire qui disparaissait, une mémoire liée aux photos chez les gens du village. C'est-à-dire que les gens perdaient les photos, mouraient. Les photos étaient transmises à des gens qui ignoraient qui était sur les photos. Et donc, les photos étaient détruites. Et on s'est mobilisé sur ce projet en se disant que c'était utile de conserver cette mémoire photographique depuis le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'au niveau des photos, par exemple, on a réussi à remonter à la fin du 19e siècle, notamment par rapport à des archives qui étaient assez intéressantes. C'était des photos sur verre. Qui était dans les archives du ministère de l'Agriculture. Et c'était avant que les pentes des vallées soient boisées. C'est-à-dire que c'est étonnant de voir des photos. Maintenant, on est habitué à ce qu'il y ait des arbres tout le long des vallées, sur les contreforts. Et là, il n'y avait rien du tout. Et à partir de là, on est parti à aller demander aux gens si vous voulez bien nous prêter des photos qu'on allait... récupérer, refotographier, travailler.
Vous avez lancé un appel aux habitants.
Et on est passé chez les habitants. C'est-à-dire que...
En porte à porte.
Voilà. Au début, c'était assez rigolo parce que les gens nous prenaient un peu pour des gens curieux, donc se méfiaient un petit peu. Puis progressivement, ça s'est mis à marcher. Et ce qui a été très rigolo, c'est au moment de un peu avant l'expo, et au moment de l'expo où les gens se précipitaient pour nous dire « Mais lui, il a ses machins, ses trucs, il est mort en telle année, il faisait ci, il faisait ça. » Et on a découvert énormément de choses, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, notamment des choses que moi j'ignorais totalement sur la pluriactivité. J'imaginais pas qu'il y a 50, 60, 80, 100 ans, les gens avaient plein d'activités différentes. Par exemple, il y avait quelqu'un qui était ongreur, c'est-à-dire c'était un castreur. Il castrait
les chevaux,
mais il castrait aussi les taureaux, les béliers, les cochons, pas les poulets, mais... Et en même temps, il avait plein d'autres activités. Il avait une scierie, il était un peu paysan. Il y a beaucoup de gens qui fonctionnaient comme ça.
Mais tout cela, vous ne l'avez pas appris que par les photos, parce que suite au succès de l'exposition, de l'engouement un peu que ça a suscité, vous avez poussé encore plus loin et vous avez organisé une soirée mémoire où vous avez invité les habitants à venir vraiment témoigner.
Alors, il y avait beaucoup de monde. On était étonnés qu'il y ait autant de monde. On avait peur un peu qu'il n'y ait qu'une dizaine de personnes qui auraient raconté un peu leur vie, un peu leur histoire. En fait, c'est très marrant parce que je crois qu'il y avait 65 personnes.
Et sachant que le village compte 300 voilà. habitants, c'est ça.
Et donc, les gens ont vraiment raconté des souvenirs qu'ils avaient. Alors, ça a été d'abord une préparation pour nous parce qu'on s'est dit on va poser plein de questions pour essayer de faire démarrer les choses. Et ça a très vite démarré.
On et a vous posé... avez demandé quoi, par exemple?
Par exemple, on a demandé, parce que c'était une curiosité qu'on avait, c'était quand il y avait un accouchement, comment ça se passait quand il n'y avait pas de médecin. Alors, les gens avaient ce souvenir-là, parce que soit ils l'avaient vécu, mais surtout, on leur en avait parlé. Alors, c'était une femme qui s'appelait Joséphine, qui était surnommée Fine, et qui était appelée dès qu'il y avait une femme qui était prête à accoucher. Et il y a toute une génération qui est en train de malheureusement disparaître à l'heure actuelle, qui a accouché au village et qui a été accouchée par Fine. Alors bon, on nous a raconté un certain nombre de choses là-dessus, c'était super. On nous a parlé aussi, on a posé des questions sur les rebouteux.
Et juste pour la coucheuse, c'était dans les années 30 ou quelle
Les derniers accouchements qu'elle a fait, c'était après la guerre.
Ok.
Après la guerre de 39-45.
Oui, donc là, la mémoire est encore vive, parce qu'il y a aussi des anecdotes bien plus anciennes. Voilà. Et comment elle se transmet, alors, cette mémoire sur des choses qui datent du 19e?
Alors, c'est assez curieux, parce que c'est quand les gens parlaient, racontaient des choses, ça évoquait chez d'autres quelque chose de différent. Alors, il y a eu des débats entre eux qui étaient assez rigolos, mais aussi, ça ramenait à des choses qui avaient été plus ou moins oubliées, et les souvenirs revenaient chez les gens sur un certain nombre de sujets. Bon, par exemple, quand moi, je posais la question, quand quelqu'un se cassait une jambe, comment ça se passait? Parce qu'il n'y avait pas de radio au village. Donc, on appelait un rebouteux qui réparait les jambes, les bras, mais qui réparait aussi les animaux.
Et alors, vous avez enregistré ces témoignages. Qu'est-ce que vous en avez fait?
Alors, on a enregistré, il y a une heure et demie à peu près d'enregistrement. On va se mettre aussi au travail pour essayer de réécrire tout ce qui a été dit et puis de voir ce qu'on peut en faire précisément.
Alors, vous nous avez cité quelques exemples de témoignages sur la coucheuse, le rebouteux. Quels autres témoignages vous ont marqué?
Alors, il y a eu des choses assez rigolotes sur la peur. Bon, parce que dans les villages, et je pense aussi dans un certain nombre de villes, il y a des choses qui sont liées à la peur, à des peurs collectives, mais aussi des peurs individuelles. Alors bon, les peurs collectives, il y a la plus connue, c'est la peur de 1789, où il y a une peur qui se développe dans tout le monde rural par rapport à ce qui se passe à Paris, par rapport aux informations qui sont données ou qui ne sont pas données.
Sur à l'époque de la Révolution.
Voilà. Et il y a eu des peurs collectives suivant les événements qui ont pu se dérouler, notamment quand il y a eu des guerres, quand il y a eu des épidémies. Il y a des peurs individuelles qui étaient liées, par exemple, à des lieux, mais qui se transmettaient, ou à des individus. Moi, je me souviens, quand j'étais gosse, c'était pas à Brenoux, mais il y avait une femme qui était très voûtée, vieille, qui nous semblait mais tellement, tellement, tellement vieille. Bon, c'est vrai, quand on est gosse, on n'a pas vraiment la notion du temps dans l'histoire. Mais on se disait qu'elle devait avoir 200 ans tellement elle était vieille. Et elle avait toujours un fagot sur le dos, ce qui fait qu'on pensait qu'elle était bossue. Parce qu'elle était un petit peu voûtée pour porter... Et c'était une peur, quand on la voyait, on fichait le camp à toute vitesse. Et je pense que dans tous les villages, il y a des histoires comme ça. À Langlade, il y a quelqu'un qui nous a raconté qu'il y avait une maison, qui était une ancienne ferme, où il y avait une espèce d'esprit qui en voulait à tout le monde. Et quand les gosses passaient devant cette maison, il se dépêchait. Il y a quelqu'un qui a raconté qu'une fois, il était tombé en panne de mobilette devant la maison, il avait largué la mobilette et il était parti en courant. Ça aussi, c'était très amusant.
Et vous m'aviez aussi évoqué, quand on s'était parlé au téléphone pour préparer cet entretien, ces très jeunes garçons qui étaient placés dans des fermes. Est-ce que vous pouvez nous raconter?
Alors là, c'est un témoignage écrit, c'est un livre qui a été écrit, c'est une espèce de recueil de souvenirs d'un enfant du village qui est placé à l'âge de 6 ans comme berger dans une ferme. Les gens pauvres plaçaient leurs enfants. Ils les plaçaient à partir de 6 ans et il y a toute une histoire qui explique pourquoi il y a eu autant de gosses de tués par la bête du Gévaudan ou les bêtes du Gévaudan. C'est parce que, comme ce n'étaient pas les enfants de la maison, on les envoyait garder, même s'il y avait du danger. C'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup d'enfants qui ont été tués à cette époque-là. Et les enfants des familles pauvres étaient en général placés à partir de l'âge de 6 ans. C'est-à-dire qu'ils étaient bergers, ils commençaient à Pâques et finissaient à la Toussaint. Comme l'école était obligatoire, ils étaient quand même obligés d'aller à l'école pendant plusieurs mois.
Et alors, avec tous ces témoignages, est-ce que les habitants que vous avez donc rencontrés, dont vous avez récolté les témoignages, est-ce qu'ils ont la conscience de cette mémoire qu'ils portent en eux, ou est-ce que c'était vraiment enfoui et ils ne pensaient pas que ça pouvait être intéressant de se souvenir de tout ça?
Mais je pense que les gens, ils pensent que leurs souvenirs, ils ont une valeur personnelle, mais qu'ils n'ont pas une valeur collective. Dans les panneaux que la commune va implanter, là, avec des photos imprimées sur des panneaux en aluminium.
Oui, ça, c'est la suite du projet. Toutes
voilà.
Les photos vont être...
Il y a un certain nombre de choses qui sont liées à ce que les gens nous ont raconté. C'est-à-dire que, par exemple, l'histoire du berger, on a une photo de berger, mais adulte, à la fin des années 50. Et à partir de cette photo, on raconte toute l'histoire des bergers. Il y a l'histoire, moi, c'est quelque chose qui m'a particulièrement touché. C'est une photo d'un soldat qui va mourir le 14 janvier 1915 et qui a écrit beaucoup de lettres à sa femme. Il écrivait vraiment très, très souvent. On a le sentiment que c'est une histoire d'amour. Donc, ça a un côté extrêmement émouvant. Et la famille, sa femme, puis leurs descendants, ont conservé ces lettres dans une boîte que la femme du soldat qui va mourir appelait la boîte des misères. Et c'est quelque chose qui est dur parce que dans ces documents, il y a des trucs qui sont très durs à comprendre. Par exemple, que c'est sa femme qui a dû payer le cercueil. Et puis quand le corps d'Augustin va être transféré à la nécropole de Douaumont, il y a l'administration militaire qui écrit à sa femme en lui disant que les glorieux restes de son mari vont être transférés à la nécropole. Et le terme « glorieux reste », moi, c'est quelque chose qui me trouble, quoi. Parce que je ne vois pas en quoi des restes peuvent être glorieux et puis en quoi on peut avoir de la gloire avec des restes. C'est assez épouvantable.
Et pourquoi, pour vous, est-ce que c'est... Cette mémoire-là, elle est importante. Pourquoi est-ce que c'est important de s'en souvenir, de la garder, de la maintenir encore vivante?
Alors, il y a la mémoire des gens, puis il y a la mémoire des événements. C'est-à-dire que, bon, je pense que tous les villages ont connu une histoire similaire à celle de Brenou, de l'enclave Brenou, mais avec des spécificités dans chaque village. Mais avec aussi une histoire qui existe partout. Par exemple, quand on a travaillé sur une photo qu'on nous a donné après l'exposition d'un four banal qui avait été détruit. En cherchant, on s'aperçoit que les gens qui faisaient cuire le pain au four banal sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire sous la royauté, étaient obligés de payer au seigneur pour faire cuire leur pain. Quand ils faisaient moudre leur grain, ils étaient obligés de payer au seigneur pour faire moudre leur grain. Ils devaient en général 10% de tout ce qu'ils récoltaient au seigneur, 10% à l'église de tout ce qu'ils arrivaient à récolter, y compris les poulets, les œufs, etc. Et que tout d'un coup, il y a la nuit du 4 août 1789, avec l'abolition des privilèges, et tout ça, ça saute. Et ça se traduit aussi par des choses dans le village, c'est-à-dire qu'il y a un château. Ce n'est pas un énorme château, c'est le château de Préfontaine, qui a été démantelé en grosse partie, où les gens ont récupéré quelque chose du château. Et c'est pour ça que dans le village, on voit...
Récupérer des pierres ou des...
Voilà. Okay. On voit des fenêtres à croisées, on voit des pierres d'encadrement des portes qui vraisemblablement viennent de ce château. Et donc, toute cette histoire, à partir du four banal, on arrive à reconstituer d'autres choses. Et c'est ça aussi qui est passionnant.
Parmi tous les témoignages, aussi toutes les photos, j'imagine qu'il y a des choix qui ont dû être faits. Comment est-ce qu'on choisit ce dont on se souvient ou ce qu'on laisse de côté?
Alors, il y a des choses qui ont été complètement surprenantes. On a, parmi nous quatre, il y en a un qui fait beaucoup de photos et qui sait travailler les photos. Et on a eu, par exemple, une photo assez grande qui était très noire. On avait vraiment du mal à distinguer ce qu'il y avait dessus. On savait que c'était une aire de battage du blé. Il a éclairci la photo, il a travaillé. Quand la photo était noire, on voyait deux personnes dessus. Puis d'un coup, il y a 35 personnes qui apparaissent, qui sont en train de battre le blé. Donc ça veut dire que quand on battait le blé entre les deux guerres, il y avait aussi un côté festif. C'est-à-dire que les gens venaient travailler, filaient un coup de main. Et après, il y avait un repas, des choses qu'on peut imaginer. Il y avait aussi une solidarité, vraisemblablement, entre les gens pour les travaux des champs. On a découvert aussi à cause de ça, parce qu'on a cherché des documents, on s'est dit, mais quand est-ce qu'elle est arrivée l'électricité au village? Quand est-ce que le téléphone est arrivé? Et alors, le truc était très amusant, c'est que quand on a posé la question aux gens, bon, on avait cherché avant dans les archives municipales quand est-ce que c'était arrivé, quand on a posé la question aux gens, par exemple, sur le téléphone, il y avait une personne qui avait le téléphone chez elle et qui servait de cabine téléphonique. Donc, la façon dont ça se passait, c'est que quelqu'un appelait, voulait avoir telle ou telle personne du village au téléphone. Donc, on envoyait un enfant, petit télégraphiste, qui courait pour aller chercher la personne, qui venait, qui rappelait au numéro en question. Et les gens disaient, mais on se méfiait tout le temps parce qu'on se disait que la personne chez qui on téléphonait devait écouter à la porte. Alors, on faisait attention à ce qu'on disait.
Donc, chaque photo vraiment ouvre et on peut tirer ensuite un voilà. fil qui va très, très, très loin.
Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à partir des photos, on a réussi à tirer des fils qui allaient dans un sens. Par exemple, une découverte en lien avec l'école, puisqu'on a travaillé sur l'école de Brenoux et l'école de Langlade, où on s'est aperçu qu'en 1934, le rectorat, l'inspection académique et la préfecture dit « Vous avez deux écoles ». Mais ça doit être des écoles mixtes, garçons et filles. Le conseil municipal et les chefs de famille s'opposent à la mixité de l'école. Alors on se dit, mais pourquoi, alors que ça existe partout, les écoles mixtes, etc., pourquoi ils refusent? Et alors ça se passe en 1934. Ça fait référence aussi à des choses qui se passent en 1934. Je ne sais pas si tout le monde s'en souvient, mais avec les ligues d'extrême droite qui s'opposent à tout un tas de choses qui ont été bouleversées en 1905 avec les lois sur la laïcité. Et ça fait aussi référence à un certain nombre de choses actuelles.
Et ce projet, alors est-ce qu'il a été fédérateur pour le village? Est-ce que ça a permis la rencontre? Et aussi, je me demande, les rencontres intergénérationnelles, comment est-ce que les jeunes ou les enfants ils s'intéressent à ça? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un impact à ce projet?
Alors, ça a eu un impact pour nous. Pour les gens qui ont participé à cette opération, disons, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui ont participé, plus les gens qui ont participé à la soirée Mémoire partagée, où il y a eu une identification d'un projet qui était un projet collectif et qui servait pour l'avenir.
Et sur les jeunes générations?
Alors, c'était très rigolo parce qu'il y a des gamins qui sont venus avec leurs parents, qui venaient voir les photos de l'arrière-grand-père. Qu'ils n'avaient jamais vu. Alors ça, c'était très drôle parce qu'il y avait des gens qui allaient d'une photo à l'autre en se disant « Mais non, c'est pas lui. Si, c'est lui. Non, c'est pas lui. » C'était assez rigolo. Mais le problème, c'est que c'est un peu le problème de la Lozère. C'est-à-dire que les jeunes, quand ils ont 18, 19, 20 ans, en général, ils quittent le département. Et il y a vraiment un trou entre la population active ou la population qui est à la retraite et puis cette génération qui a entre 18 et 30 ans et qui était dans le village auparavant. Donc on a eu du mal à les toucher.
En tout cas, quand ils viendront voir l'exposition, c'est sûr qu'ils seront intéressés de voir à quoi ressemblait leur village par le passé. Et donc voilà, le prochain rendez-vous, c'est le samedi 10 janvier à 15h. Donc c'est à la salle des fêtes de Langlade Brenoux. Il y aura un goûter partagé et donc la présentation à travers les 10 panneaux photos et les QR codes que vous présenterez.
Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Alors on a hâte de... Bon, parce que c'est une forme d'aboutissement. Même si après l'expo du mois d'avril, il y a des gens qui nous ont donné d'autres photos, qu'on n'avait pas de nouvelles photos. Ça les a convaincus, plus un certain nombre de documents. Il y a des choses vraiment très émouvantes qui nous ont été montrées par des gens. Par exemple, une femme qui partait allaiter un enfant dans le Gard parce qu'elle n'avait pas d'argent. Donc, elle a sevré son enfant. Et elle est partie travailler dans le Gard pour...
Comme nourrice.
Voilà, comme nourrice. Il y a des choses très, 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 qu'on n'imagine pas maintenant.
Et est-ce que... Parce que je voulais vous demander si vous aviez envie qu'on écoute une musique. Ça me fait poser la question. Est-ce qu'on vous a aussi raconté des choses autour de la musique, des chansons?
Non. Même si c'est quelque chose qui... sur lequel je pense qu'on va essayer de travailler, c'est-à-dire comment les gens se rencontraient, comment les couples se formaient.
Alors on pense aux balles tout de suite.
Voilà, les balles, je pense que c'était quelque chose de très important, parce qu'il y a beaucoup de rencontres qui se sont faites à ce moment-là, et les mariages. Et les mariages où là, les gens venaient de plus loin. les balles s'étaient limitées à quelques kilomètres, parce que c'était lié aux moyens de transport, où faire 15 kilomètres ou 20 kilomètres pour aller à un bal, c'était difficile d'y aller à pied, de revenir à pied. Donc je pense que là aussi, il y a un travail très intéressant qui peut être très, très rigolo en plus à faire. Alors ce qui est rigolo, c'est les photos de mariage. Jusqu'au début des années 50, les gens ne sourient pas sur les photos. Alors ça, c'est impressionnant, non ? Ils ont une tête d'enterrement alors qu'ils sont à un mariage. On s'est aperçu que les femmes, jusqu'à fin des années 50, ne croisaient pas les jambes sur les photos. Que les femmes de plus de 30 ans, sur les photos de mariage, elles ont tout un chapeau. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'on retrouve les mêmes vêtements pour une autre famille. C'est-à-dire que les gens allaient chez le photographe et on leur prêtait des vêtements, des chapeaux.
C'était un moment très solennel et sérieux, parce que très rare, qu'aujourd'hui, on se prend en photo 20 000 fois dans une vie peut-être. Eh ben, merci beaucoup d'être venu nous présenter ce projet, et à suivre alors, parce que j'imagine que vous allez continuer de collecter et de recevoir des nouvelles photos.
On va essayer. Merci à vous.
Merci.
Directly to my heart, directly to my hair line. Where do I start? It's not like art, it's just how you is. Try not to argue this. Your work looks good.
Vous êtes bien sur Radio Bartas, on écoutait à l'instant le titre Direct to Helmet du groupe états-unien The Spinto Band, sorti en 2005. C'est un morceau que j'ai redécouvert ce week-end parce que j'ai retrouvé une vieille compile CD que m'avait faite un ami à moi quand on était au lycée. J'ai écouté ce morceau dans ma voiture et c'était comme un voyage dans le temps, un voyage dans ma mémoire d'adolescente.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières. Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Et je rappelle le rendez-vous donc que nous donnaient à l'instant Jean-Luc Galibert et les habitants de Brenoux qui présenteront l'histoire de leur village à travers les 10 panneaux, photos et les QR codes qui y seront installés. Ce sera donc le 10 janvier à 15h à la salle des fêtes de l'Anglade Brenoux. Et si en attendant vous avez envie de vous plonger dans d'anciennes photos lausériennes, je vous invite à aller faire un tour sur le site des archives départementales de la Lozère qui conserve de nombreux fonds photographiques datant de la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours, mais parmi ces clichés, beaucoup n'ont pas été identifiés avant leur entrée aux archives et gardent tout leur mystère. Alors les services des archives départementales appellent les Lozériens et les Lozériennes à les aider à reconnaître un lieu, des personnes ou des événements sur ces photos mystères qui vous sont proposées en libre accès sur leur site internet. Si vous reconnaissez ou croyez reconnaître quelque chose, vous pouvez partager votre savoir ou proposer vos hypothèses en laissant un commentaire sous les images présentées. Et une fois l'énigme résolue, la photo mystère, elle est classée et elle est remplacée périodiquement par une nouvelle. C'est donc une véritable collaboration mémorielle qui est proposée, un encouragement à une mémoire participative. Moi, je trouve ça génial. Et la série mystère, en ce moment, c'est une série de plaques de verre et de clichés qui sont pris entre 1900 et 1950 concernant des manifestations religieuses. Les photos sont très belles, très intrigantes. Allez voir sur le site, c'est www.archive.lozere.fr, onglet photo mystère.
C'est magnifique, remarquable,
très joli, Georges.
C'est fascinant. Qu'est-ce que c'est?
Ce n'est qu'un prototype expérimental réduit. Un grand modèle pourrait transporter un homme.
Transporter un homme? Pourquoi j'ai?
C'est une machine à explorer le temps. L'avenir et le passé.
Très bien, Georges, nous apprécions votre humour, mais nous aimerions vraiment savoir à quoi sert ce machin-là.
Je vous l'ai déjà dit, docteur. Avec un plus grand modèle, on pourra transporter un passager à travers le temps. Pas à travers l'espace, à travers le temps.
Mais dites-moi, Georges, si vous allez vous amuser à vous promener dans le futur, ne risquez-vous pas de nous attirer des ennuis?
Non, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Je me le demande. C'est la question que je me suis posée et à laquelle j'espère trouver une réponse. L'homme peut-il contrôler sa destinée? Peut-il changer le monde de demain?
Midi et des poussières.
C'était un extrait dans sa version française du film La machine à explorer le temps, réalisé par George Pal, sorti en 1960, inspiré du roman de l'écrivain britannique Herbert George Wells. Un voyage dans le temps, il y en a eu un hier à la maison de retraite de Florac, où les enfants de la classe de CP de l'école primaire sont venus rendre visite aux aînés pour un joyeux mélange intergénérationnel, passé et futur se rencontrant, les voix incessantes et pointues se mêlant aux paroles basses et fragiles, les souvenirs qui s'échappent et les mémoires en devenir, toutes et tous se regardant pleins d'une curiosité réciproque. Cette rencontre a eu lieu le temps d'un atelier réminiscence autour des jouets ancien. L'animateur de cet atelier, Éric Petit, est venu avec sa collection de jouets datant pour certains du début du XXe siècle. Les enfants les découvraient, les aînés s'en souvenaient. Et ce moment sera l'objet du prochain épisode de la Radio des aînés qui sera diffusé ce dimanche sur Radio Bartas.
Midi et des poussières sur Radio Bartas.
Un autre lieu où passé révolu et futur non advenu se côtoient depuis maintenant 48 ans, c'est à l'intérieur de la sonde Voyageur lancée par la NASA en 1977, à l'intérieur de laquelle est embarqué le Voyageur Golden Record, le disque d'or de Voyageur. C'est un disque sur lequel sont gravées les images et les sons de l'humanité que la NASA a jugé pertinent à l'époque d'envoyer dans l'espace comme une sorte de bouteille à la mer interstellaire destinée à d'éventuelles vies extraterrestres. extraterrestres. Alors si des extraterrestres en venaient effectivement à rencontrer la sonde voyageur, à réussir à pénétrer à l'intérieur, à trouver ce disque et à avoir l'outil adapté pour le lire, eh bien elle pourrait ainsi y voir une image de la structure de l'ADN, des danseuses de Bali, la primatologue Jane Goodall filmant un chimpanzé, la naissance d'un bébé humain, un crapaud dans une main, un séquoia enneigé, un dîner familial chinois et bien d'autres images encore. Et puis il y a les sons, celui du vent, de la pluie, d'une vague déferlante, du feu, d'un troupeau de moutons, les battements d'un cœur, un tracteur et des langues, tout plein d'extraits de langues parlées. Et enfin, les musiques, la flûte enchantée de Mozart, le clavier bien tempéré de Bach, le chant d'initiation d'une fille pygmée du peuple Mbouti, la flûte de Pan aux îles Salomon, la cornemuse en Azerbaïdjan, et ce morceau mexicain, El Cascabel, interprété par Lorenzo Barcelata et qu'on a envie d'entendre résonner fort, fort, fort dans l'espace infini. C'était El Cascabel, morceau de musique mexicain qui fait partie de la playlist envoyée dans l'espace sur le Voyageur Golden Record. Et sachez que la sonde Voyageur est toujours en pleine forme, 48 ans après son décollage. Elle est l'engin le plus lointain jamais construit par l'être humain et elle atteindra dans un an, le 15 novembre 2026, une distance équivalente à un jour-lumière, ce qui correspond à la distance que la lumière parcourt en 24 heures, soit environ 26 milliards de kilomètres. Et elle continue d'envoyer des données à la Terre, données précieuses pour les chercheurs, car elle est la seule sonde à se déplacer dans le milieu interstellaire et à avoir quitté l'héliosphère, c'est-à-dire la bulle formée autour du système solaire par le vent solaire et le champ magnétique de notre étoile. Allez, on retourne sur Terre en Lozère, où, pour rester dans le thème de la mémoire jusqu'au bout, je vais vous donner la météo d'hier. Souvenez-vous, il a plu beaucoup. Voilà, cette émission est terminée. Elle appartient désormais au passé, mais vous pourrez la réécouter dans un futur très proche, dès ce soir, lors de la rediffusion à 21h, et dans un futur plus lointain, quand vous voudrez, car elle va rejoindre l'immense océan de nos archives radiophoniques disponibles en podcast sur le site de Radio Bartas. Et puis, de toute façon, on se retrouve demain. Rendez-vous à midi et des poussières, exactement.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement, c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.